VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du vendredi 19 juin 2015. À la une ce soir, l'opposition guinéenne obtient l'annulation du calendrier électoral. Présidentielle centrafricaine, les autorités de transition annoncent que le vote aura lieu le 18 octobre. Troubles politiques au Burundi, un responsable local du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi. Nouveau gouvernement au Bénin, à sa tête, le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
L'opposition guinéenne vient d'obtenir l'annulation du chronogramme qui prévoyait la tenue des élections communales en 2016, comme annoncé il y a quelques mois par la CENI. L'opposition et la mouvance discutent depuis hier dans le cadre du dialogue politique en présence de la communauté internationale. Le dialogue se poursuit demain.
Troubles politiques au Burundi. Un responsable local du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone de Gitanga, dans le sud du pays. C'est ce qu'indique l'AFP. Léonidas Dinkuma Genge était dans son bar lorsqu'un groupe de 7 personnes portant des imperméables de la police et de l'armée, munis de 3 kalachnikovs, lui ont tiré dessus, selon un membre du CNDD-FDD.
Sachez aussi que le journaliste rwandais, arrêté la semaine dernière dans le nord-est du Burundi, a été relâché hier, accusé d'espionnage, faute d'accréditation. Étienne Bessabessa Mivumbu a été reconduit au Rwanda, indique l'AFP.
Et l'UNICEF a condamné aujourd'hui le jet de grenade mardi dernier dans une école primaire de Bujumbura. Un élève avait été blessé. L'organisation en appelle aux différents acteurs politiques de garder les enfants hors des violences politiques. Johannes Wendening, chef de bureau sortant de l'UNICEF au Burundi.
L'école qui doit être vraiment un sanctuaire de paix, qui doit être un lieu d'apprentissage, de protection et de développement intégral de l'enfant. Donc que ça ne soit pas respecté, c'est vraiment, il y a la loi humanitaire internationale qui protège les écoles. Et certainement, j'avais appelé aussi Son Excellence, Monsieur le Président, que tous ceux qui ont fait ça doivent être traduits en justice et une obligation de protection de tout le monde, mais en particulier du gouvernement pour tous les enfants. Et nous avons eu des consultations avec tous les parties prenantes de la société, avec Son Excellence, Monsieur l'Ombudsman. Et je crois qu'il y a une entente qui a été signée de garder les écoles, l'éducation, les enfants en dehors de la politique, d'assurer que les écoles soient des centres de paix, de soigner les langages, qu'il n'y ait pas des langages inflammatoires, mais des langages qui unifient pour les enfants. Et je crois tout le monde a signé et donc tout le monde s'est engagé et nous comptons évidemment faire le suivi et rappeler tout le monde à ses engagements.
Johannes Wedenig, chef de bureau sortant de l'UNICEF au Burundi. Présidentielle centrafricaine, les autorités de transition annoncent que le vote aura lieu le 18 octobre. L'éventuel second tour se tiendrait le 22 novembre. Initialement prévu en novembre 2014, le scrutin en est à son troisième report. Un référendum constitutionnel est prévu avant la présidentielle le 4 octobre. Le texte définitif du projet de nouvelle constitution ainsi que le code électoral devront donc être prêts d'ici là.
Un nouveau gouvernement vient d'être installé à Cotonou avec à la tête le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou, neveu de l'ex-président Émile Derlin Zinsou. Reportage de notre correspondant au Bénin, Pays Ludovic Tagba.
Elle est composée, cette équipe, de 28 membres et du point de vue genre, 7 femmes. Ce nouveau gouvernement porte à sa gueule une innovation de taille, un poste de premier ministre et un poste de vice-premier ministre. Tous, non prévus par la Constitution du 11 décembre 1990, mais que l'homme fort du pays a tenu à crier pour rester dans la droite ligne des réformes qu'il désire opérer dans le pays. Lionel Zinsou, un franco-béninois de 61 ans, occupe ce poste en remplacement de celui qu'il aura laissé décidément jusque-là inconsolé, Pascal Irénée Koupaki. Lionel Zinsou, disais-je, est un fait ligné des finances. Banquier jusqu'au bout des ongles, il est désormais appelé à remonter les finances béninoises et coordonner l'action gouvernementale avec François Abiola, vice-premier ministre, précédemment ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. Le jeune premier, Kumi Kuche, obtient une promotion. Il devient ministre d'État chargé de l'économie, des finances et du programme de dénationalisation. Voilà, entre autres, les points saillants du tout nouveau gouvernement du Dr Thomas Boniyai. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
La violence contre les enfants au Soudan du Sud a atteint un nouveau niveau de brutalité depuis le mois de mai, a fait savoir dans un communiqué le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake. Michel Joseph.
Les détails de l'aggravation de la violence contre les enfants sont inqualifiables, mais nous devons en parler, s'insurge le directeur de l'UNICEF. Au moins 129 enfants dans l'état d'unité ont été tués pendant seulement 3 semaines en mai. Les survivants indiquent que des garçons ont été émasculés et saignés à mort. Des filles d'à peine 8 ans ont été violées collectivement et assassinées. Des enfants ont été attachés ensemble avant que leurs agresseurs ne les égorgent. D'autres ont été jetés dans des bâtiments en feu, poursuit Anthony Lake. Des enfants sont aussi agressivement recrutés dans des groupes armés des deux côtés à un rythme alarmant. Ils ont environ 13 000 contraints de participer au conflit, rappelle M. Lake, ajoutant « Imaginez les effets psychologiques et physiques sur ces enfants, non seulement de la violence qui leur est infligée, mais aussi la violence qu'ils sont forcés d'infliger à d'autres. » Au nom de l'humanité et de la décence ordinaire, cette violence contre les innocents doit cesser, a souligné M. Lake. La guerre civile au Soudan du Sud est caractérisée par des massacres ethniques attribuables aux rebelles, tout comme aux troupes gouvernementales. L'ONU a averti cette semaine que 250 000 enfants risquaient de mourir de faim au Soudan du Sud et que les 2/3 des 12 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et sécuritaire.
Barack Obama, le président américain, rencontrera fin juillet des responsables de l'Union africaine à l'occasion d'une visite en Éthiopie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise au Yémen, après 5 jours de pourparlers à Genève, les protagonistes se sont séparés aujourd'hui sans un accord ni une date pour de nouvelles discussions. À l'issue des consultations, l'émissaire de l'ONU Ismail Ould Cheikh Ahmed s'est dit pourtant optimiste quant à la possibilité d'une trêve au cas où il y aurait un nouveau round de négociations. Le diplomate mauritanien fera prochainement son rapport au secrétaire général Ban Ki-moon et au Conseil de sécurité, souligne l'AFP. Les rebelles houthis soutenus par l'Iran et l'ex-président Ali Abdallah Saleh sont en proie à une campagne militaire menée par l'Arabie saoudite qui appuie les sunnites et le président en exil, Abed Rabo Mansour Hadi.
Le département d'État vient de rendre public son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Aucune surprise, le groupe État islamique et Boko Haram affiche le triste palmarès avec le plus grand nombre de victimes. Salwa Jafari.
2014 était une année violente. L'État islamique, Boko Haram, y ont largement contribué. Le nombre d'actes terroristes a augmenté d'un tiers, le nombre de décès a presque doublé, le nombre d'enlèvements a lui triplé. 33 000 personnes sont mortes dans presque 13 500 attaques terroristes dans le monde en 2014. Le rapport attribue la hausse des attaques à l'augmentation de l'activité terroriste en Irak, en Afghanistan et au Nigeria. Les attentats sont de plus en plus meurtriers. 20 attaques ont tué plus de 100 000 personnes chacune en 2014. Les attaques terroristes ont eu lieu dans 95 pays en 2014, mais ont été concentrées au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Afrique de l'Ouest, l'Irak. Et puis il y a les enlèvements. Les groupes terroristes en Syrie, notamment le groupe État islamique et le Front al-Nusra au Nigeria, Boko Haram, étaient responsables de la plupart, sinon la totalité, avec près de 1300 enlèvements, dont plusieurs centaines de jeunes filles d'une école de Chibok.
Aux États-Unis, l'auteur présumé de la tuerie dans une église historique en Caroline du Sud a formulé cet après-midi une demande de remise en liberté. En attendant son procès, le juge a fixé sa caution pourtant à 1 million de dollars. Dylan Roof est accusé du meurtre de 9 Africains-Américains au cours d'une soirée d'études de la Bible mercredi soir à l'église Emmanuel African Methodist Episcopal de Charleston. D'autres détails avec Jacques Aristide.
L'enquête suit son cours, mais CNN rapporte que Dylan Roof aurait avoué son crime aux autorités policières. La chaîne américaine cite un représentant des forces de l'ordre pour dire que le jeune homme de 21 ans voulait ainsi provoquer de nouveaux affrontements raciaux aux États-Unis. Ces confessions corroborent les déclarations de Joey Meeks, un de ses amis d'enfance. Roof lui aurait confié que les Noirs sont en train de prendre le contrôle du monde et que quelqu'un va devoir s'en occuper pour la race blanche. Hier soir, à Charleston, de nombreux habitants ont tenu une vigile à la mémoire des victimes de l'église Emmanuel, une église liée à la lutte des Africains-Américains pour les droits civiques, d'où l'enquête pour crimes haineux ouverte par le département américain de la justice. Quant à la gouverneure de la Caroline du Sud, Nikki Haley, elle a déclaré à la chaîne NBC qu'elle voulait absolument que Dylan Roof écope de la peine de mort. Des soirées de prière continuent de se tenir à Charleston, mais aussi ailleurs dans le pays.
Réunion aujourd'hui au Luxembourg des ministres des Finances de l'Union européenne en prévision d'un sommet d'urgence lundi sur la dette de la Grèce. Toujours pas de proposition satisfaisante d'Athènes, déplorent les responsables de la zone euro. Les négociations ne doivent pourtant pas s'arrêter, a déclaré le président François Hollande.
Nous devons utiliser donc le temps qui sépare le moment où nous avons constaté hier qu'il n'y avait pas encore d'accord, c'est-à-dire dans le cadre de l'Eurogroupe, de la réunion qui est prévue lundi, pour tout faire pour que les négociations reprennent, que les discussions puissent aboutir à un compromis, mais un compromis fondé sur les règles européennes.
Le président français François Hollande devant la presse à Bratislava en Slovaquie.
L'Union européenne a prolongé ce vendredi d'un an une série de sanctions décrétées pour protester contre l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Deux jours après avoir décidé de prolonger de 6 mois d'autres sanctions économiques en lien avec la crise en Ukraine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jacques Aristide.
Un numéro vert vient d'être lancé pour favoriser la dénonciation de la corruption au Maroc, où ce fléau continue de sévir malgré une progression du pays l'an dernier dans les classements internationaux. C'est ce que rapporte l'AFP en citant des médias locaux. D'après le ministre de la Justice, Mustapha Ramid, ce numéro vert constitue l'outil efficace permettant aux Marocains de contribuer à la lutte contre la corruption dans un cadre participatif. Aux Comores, les privations d'eau et d'électricité vont s'aggravant en cette période de Ramadan. La population de ce petit archipel musulman est à genoux, même si le gouvernement a promis des produits bon marché. D'après l'AFP, à Moroni, la capitale, les consommateurs et les commerçants doivent se débrouiller avec quelques heures d'électricité par jour et encore moins dans les autres régions. Un récent rapport de l'OCDE et du PNUD qualifie la situation de préoccupante. La 27e assemblée annuelle des Cobanques s'est ouverte ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie. Le litige opposant le groupe bancaire panafricain à son ancien directeur général, l'ivoirien Thierry Tanneux, polarise la tension en dépit des bons chiffres réalisés par la banque.
Merci Jacques Aristide pour la Minute Éco.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Copa América, le Pérou se relance.
Avec sa victoire 1-0 face au Venezuela cette nuit, le Pérou a complètement relancé le groupe C de la Copa América avec 4 équipes dont le Brésil à égalité avant le dernier match de poule. Le Pérou est désormais deuxième avec 3 points comme le leader, le Brésil, qui l'affrontera dimanche. La Seleção sera privée pour ce match capital de son buteur vedette Neymar, exclu. L'Uruguay, tenant du titre, doit battre le Paraguay demain pour être sûr d'atteindre les quarts de finale. Mission plus difficile que celle de l'Argentine qui sera opposée à la Jamaïque dans le groupe B.
Et démission du sélectionneur de la Namibie.
3 semaines après avoir conduit l'équipe à la victoire en COSAFA Cup, Ricardo Manetti a démissionné de son poste de sélectionneur de la Namibie. Le technicien italien qui a fait part de raisons personnelles sera remplacé par son adjoint Ronny Canalello.
Pas d'Europa League pour le Dynamo Moscou.
Le club moscovite qui devait participer au 3e tour préliminaire de l'Europa League a été suspendu de cette compétition pour violation des obligations d'équilibre financier.
Le Mali et le Sénégal vont tenter de se consoler demain.
Les deux derniers représentants du continent sont sortis lors des demi-finales du tournoi cette semaine. Eh bien, les deux voisins se disputeront la 3e place de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Et puis, mondial féminin au Canada, les 8e de finale, Nicolas.
Un seul représentant africain, les Lions indomptables du Cameroun qui affronteront demain la Chine.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guériec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, la Guinée, où l'opposition a obtenu l'annulation du chronogramme qui prévoyait des élections communales en 2016, donc après le scrutin présidentiel.
Il faut rappeler, Morgane, que l'opposition guinéenne en avait fait sa principale exigence. À plusieurs reprises, l'opposition avait réussi à mobiliser divers secteurs pour contraindre le pouvoir à envisager un nouveau calendrier. Des pourparlers sont en cours, d'ailleurs depuis hier, en présence d'un représentant de la communauté internationale. Pour un éclairage, Timothée Donagmaï a joint ce soir Georges Gandhi Tonkara, l'un des représentants de l'opposition guinéenne.
La question préjudicielle qui permettait à l'opposition de rentrer dans le dialogue a été levée ce matin, puisque la CENI a accepté l'annulation du chronogramme concernant les communales. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir revenir à la table de négociation à partir de demain.
Par le passé, vous mettiez en doute la bonne foi de la majorité dans ces négociations. Est-ce que c'est encore le cas?
En tout cas, dans les débats, il est question de revoir la composition de la CENI. Il y a un chapitre du débat qui concernera la CENI où nous allons poser toutes nos doléances. L'important, monsieur, c'est qu'il y a une ouverture pour que les deux parties puissent se parler. Nous allons aborder toutes les questions et nous allons faire l'effort d'y répondre correctement pour que les deux parties soient satisfaites et que nous puissions enfin sortir de cette situation électorale en Guinée.
Quels sont les grands points qui feront l'objet des débats dans ce dialogue?
Eh bien, le premier point que nous mettons, qui est très important pour nous, c'est le fichier. Et il faut revoir le fichier électoral, parce que nous voulons être sûrs que le contenu du fichier correspond à la réalité que nous attendons. Nous voulons être sûrs que le fichier sera, comme pendant les élections législatives, géré non seulement par les deux parties, mais également par une partie extérieure, notamment par des observateurs. Aux élections législatives, il y a eu l'assistance de l'Union européenne, ce qui a permis d'avoir les résultats qu'on a obtenus, parce qu'il n'y a pas pu y avoir tripatouillage du fichier. Donc, au-delà de cela, il y a d'autres questions qui sont importantes, telles que la libération des personnes qui ont été arrêtées, telles qu'également et les questions qui touchent justement aux délégations spéciales.
Cette question du dialogue et du chronogramme a suscité beaucoup de tensions dans la société guinéenne. Quel est votre message à l'endroit des Guinéens aujourd'hui?
Mais à l'endroit des Guinéens, c'est de leur dire qu'il est important que nous puissions nous asseoir et parler, parce que sans dialogue, nous ne pouvons pas avancer. C'est dommage qu'il y ait eu tant de manifestations. C'est dommage qu'il y ait eu tant de morts pour ensuite venir à ce dialogue-là. Alors pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Pourquoi traîner? Pourquoi attendre? Pourquoi toujours il faut qu'il y ait des morts avant qu'on fasse à la table de négociation? Eh bien, c'est ce que nous, en tant que parti UGDD, nous voulons refuser aujourd'hui, inviter les hommes politiques à être plus responsables, à refuser de mettre les enfants dans la rue pour qu'il y ait des blessés, pour qu'il y ait des morts et ensuite venir à la négociation. Tout cela peut être évité.
On écoutait Georges Gandhi Tonkara, il est l'un des représentants de l'opposition en Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Cap maintenant sur la République centrafricaine, où le chronogramme électoral 2015 a été officiellement présenté ce vendredi par l'Autorité nationale des élections.
Selon ce nouveau calendrier, le premier tour des scrutins législatifs et présidentiels aura lieu le 18 octobre et l'éventuel deuxième tour se tiendra le 22 novembre, précédé d'un référendum constitutionnel le 4 octobre. Par ailleurs, il est prévu un recensement électoral qui débutera à partir du 27 juin. Cependant, ce calendrier électoral sera-t-il respecté, étant donné les nombreux défis à relever? Réponse du président de l'ANE, Dieudonné Kombo Yaya, joint par Félix Yepassi Zembro.
Oui, c'est vrai qu'il y a des défis à relever, notamment le recensement et le tapis, comme vous le dites si bien, mais on va commencer bientôt le recensement. Et nous espérons que la communauté internationale va nous soutenir dans notre action pour que nous fassions le recensement sur toute l'étendue du territoire. Mais nous sommes heureusement engagés à nos élections avant la fin de l'année 2015.
Et en ce qui concerne le volet sécurité, Président, est-ce que ce n'est pas un défi majeur aussi à relever?
Effectivement, c'est un défi majeur. La sécurité a un rôle extrêmement important. Il faut la sécurité naturellement. Nous n'aurons pas de sécurité à 100%, mais il nous faut un minimum de sécurité pour les élections. J'étais tout à l'heure avec le ministre de l'Administration du Territoire qui a donné l'assurance que la sécurité sera assurée pour nous permettre d'aller aux élections.
Et l'aide financière, Monsieur le Président, est-ce qu'elle est effective pour ces élections?
Nous avons des problèmes. Le gap de 48% demeure. Mais il y a des actions qui sont menées. Nous sommes en train de voir la possibilité de réduire le budget des opérations en négociant dans le cadre des relations sud-sud avec certains États pour nous donner du matériel électoral comme les urnes, comme les isoloirs. Cela nous permettra de baisser le budget des opérations électorales et donc de réduire le gap. Le gap est toujours là. Tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient qu'il faut absolument nous donner les moyens nécessaires pour les élections parce que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la transition. Et comme vous le savez, il y a des FMI qui nous a fait comprendre qu'au-delà de 2015, on va poser des problèmes pour le financement, pour l'aide budgétaire à la RCA.
Dieudonné Kumbuyaya, président de l'Autorité nationale des élections en RCA.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En ce début de Ramadan, les musulmans à Bujumbura ont prié aujourd'hui pour la paix et l'unité au Burundi, un pays secoué par une crise politique grave depuis le mois d'avril. Notre envoyé spécial Bagassi Koura a assisté cet après-midi à la mosquée centrale de Bujumbura à la première prière de vendredi du mois de Ramadan.
À Bujumbura, les musulmans sont sortis très nombreux pour la première prière de vendredi de ce mois de Ramadan, une période qui survient dans un contexte de relative accalmie depuis plusieurs jours. En effet, la capitale burundaise n'enregistre plus les grandes manifestations de l'opposition, des manifestations qui ont été souvent émaillées de violence. Et ce mois de jeûne et de prière, les musulmans burundais comptent le placer sous le signe de la paix.
Le mois sacré de Ramadan, nous le plaçons dans un signe très particulier où justement le Burundi traverse une période de plus ou moins difficile.
Hadi Haruna Nkunduwiga est l'un des responsables de la communauté musulmane du Burundi.
Nous lançons un appel à tous les musulmans d'abord et à tout le peuple du monde entier à pouvoir s'unir, rester unis. Et surtout, nous demandons à tous les musulmans de prier pour notre pays, pour que le pays retrouve la paix et la tranquillité. Et notamment pour les élections en vue, que nous puissions organiser des élections libres, transparentes et crédibles et qui puissent nous faire parvenir à des institutions devant nous conduire au développement. Et donc pour ce mois, nous demandons à tous les musulmans de rester sereins et de mettre en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier.
Le Burundi traverse une crise politique depuis fin avril quand le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a décidé de choisir comme candidat le président sortant Pierre Nkurunziza, un possible troisième mandat qui divise les Burundais et qui aboutit souvent à des affrontements entre opposants et partisans du parti au pouvoir, d'où ce message d'unité de la communauté musulmane.
Nous devons tous être unis et savoir que ce mois que nous avons aujourd'hui, nous avons pu l'atteindre. Il y en a qui avant-hier étaient avec nous, qui ne sont plus avec nous. Et nous qui l'avons commencé, nous ne savons pas si nous allons le terminer. Et si nous le terminons, nous ne savons pas si nous allons atteindre le mois du Ramadan de l'année prochaine. Donc nous devons tout faire, nous approcher du Tout-Puissant justement, implorer le Tout-Puissant pour que nous puissions le terminer en beauté.
Le Burundi est un pays laïque. La communauté musulmane représente seulement environ 10% de la population. Bagassi Koura, Bujumbura pour VOA Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Amnesty International appelle le gouvernement camerounais à libérer immédiatement 84 enfants, dont certains âgés seulement de 5 ans, détenus depuis 6 mois dans la région de l'extrême nord. Ils ont été arrêtés le 20 décembre dernier lors d'une descente des forces de sécurité dans des écoles coraniques de la localité de Guirvidig. Des établissements qui, selon les autorités, servaient de couverture à des camps d'entraînement de Boko Haram. Les enfants n'ont été inculpés d'aucun crime. Des chercheurs d'Amnesty leur ont rendu visite dans un centre pour mineurs de Maroua. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a joint à Dakar Steve Cockburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Les conditions du centre n'est pas la pire. Ils ont quoi à manger. Il y a un centre d'enfance qui s'occupe d'eux, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas permis de sortir. Ils sont empêchés de retourner chez leurs parents. Et donc, nous avons parlé à beaucoup de ces enfants. Nous avons causé avec eux, nous avons même joué au foot avec eux. C'est vraiment les jeunes garçons, la moitié en moins de 10 ans. Et chacun nous dit que la seule chose qu'ils veulent, c'est de rentrer chez eux.
Quel est le sort des adultes arrêtés en même temps que ces enfants?
Il y avait 43 hommes qui étaient arrêtés pendant cette opération. La plupart d'entre eux sont les enseignants, mais il y avait d'autres, il y avait chauffeurs de taxi et d'autres personnes qui étaient dans la ville au même temps. Certains d'entre eux ont été battus en route par les forces de sécurité. Et il y a maintenant, tous ces hommes restent dans la prison à Maroua, la capitale, dans les conditions très précaires. Hein, c'est dans une prison surpeuplée, peuplée avec peu d'eau, où les conditions d'hygiène sont très mauvaises. Ils sont là depuis 6 mois maintenant, en attendant le procès. Nous, ainsi que demander la libération de ces enfants, nous demandons aussi que ces hommes que leurs droits d'un procès équitable et des conditions de détention humaine sont respectés par les autorités.
L'extrême nord du Cameroun est menacé par Boko Haram et les autorités disent qu'elles devaient prendre des mesures face à cette situation.
Donc c'est clair qu'il y a une vraie menace de Boko Haram dans cette région et les autorités ont pris les mesures, ils ont renforcé les forces de sécurité pour mieux sécuriser la zone. Mais au même temps, il y a eux avec ces renforcements, avec cette réponse sécuritaire, il y a eux quelques violations comme celle-ci des enfants. L'opération contre les écoles coraniques est venue à un moment où il y avait une forte augmentation des attaques de Boko Haram. Il y avait des attaques des centaines de combattants au même temps, avec des armes lourdes contre les villages. Il y avait des centaines de civils exécutés. Il y avait les militaires qui étaient tués. Donc vraiment, c'était un moment où les forces de sécurité ont été sous pression. Et je pense que ça a contribué à cette opération qui était assez sévère contre les écoles camerounaises. Maintenant, ils vivent toujours sous menace, mais il y a moins d'attaques. C'est une période plus calme et je pense que les autorités devraient vraiment profiter de cette calme pour d'abord trouver la façon à libérer ces enfants, mais aussi de s'assurer que leurs opérations sécuritaires respectent les droits humains.
C'était Steve Cockburn, directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, joint à Dakar. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir la réaction des autorités camerounaises à l'appel d'Amnesty International.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, cette édition touche à sa fin. Je vous rappelle que la mise en onde ce soir a été assurée par Joselle Morissin, assistée de Mr. Cornelius à la console. Présentation, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos, c'est dans moins d'une minute.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.